Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à cette édition de l'émission Parole en musique en ce beau samedi de décembre. Moi, j'ai une vue panoramique sur le traîneau de mon ami Mark Wickfield qui est stationné juste en face.
Oh, oh, oh.
Et oh, 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 en effet, il faudra tout à l'heure faire aller les petites clochettes là, hein, pour créer un peu d'ambiance. Alors, nous sommes bien sûr dans l'ambiance de Noël et nous aurons un cantique de Noël aujourd'hui encore. Hein, nous passons en fait les trois samedis précédant la fête de Noël à considérer des cantiques d'occasion, des cantiques de circonstance. Et quel est celui que vous allez nous présenter ce matin, Mac?
Aujourd'hui, vraiment, probablement c'est un cantique qui est parmi les mieux connus, les mieux aimés aussi, je dirais. C'est le cantique Silent Night, c'est écrit par Joseph Moore.
Que nous connaissons bien sûr en français sous le titre « Ô Sainte Nuit ».«
Ô Sainte Nuit », il y en a qui disent « Ô Nuit de paix ». ».«
Ô Nuit de paix »,
il y a différentes traductions,
effectivement,
mais
c'est
dans ce sens-là.
Mm-hmm.
Alors, je vais vous proposer l'écoute d'une version des plus classiques par un groupe qui s'appelle classiquement Gregorian. Et il va nous interpréter donc une première version de ce chant, « Silent Night ».
Et qu'est-ce que ça va nous dire en français, Mac?
Ça dit en français… Nuit de silence, sainte nuit. Tout est calme et tout brille autour de la Vierge là-bas, avec son enfant. Un bébé si tendre, si doux, dort en paix céleste. Nuit de silence, sainte nuit, des bergers tremblent d'effroi devant la vision. Du ciel lointain, la gloire inonde la scène. Les anges célestes chantent Alléluia. Christ, le Sauveur, est né. Nuit de silence, sainte nuit, voici le Fils de Dieu, la lumière pure, don de son amour, des rayons lumineux de ta sainte face et l'aube d'une grâce rédemptrice, à ta naissance, Jésus, à ta naissance, Seigneur. Voilà. Alors nous allons écouter le groupe Gregorian qui va chanter pour nous « Silent Night ». Alors voilà pour une première version, le chant Silent Night. Laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de ce chant, Raymond. C'est une histoire aussi intéressante. L'auteur de ce cantique est né en Autriche, à Salzbourg, en 1792. Et dans son enfance, Joseph Mohr chantait avec enthousiasme dans la chorale de la cathédrale. Et en 1815, il est devenu prêtre et il a servi dans diverses paroisses de la région de Salzbourg.
Excusez-moi.
En 1818, il était assistant dans la nouvelle église de Saint-Nicolas à Oberndorf, dans les Alpes, et il a écrit le texte de ce beau cantique de Noël. Dans une belle complicité, Franz Gruber, le maître d'école du village, a travaillé avec Mohr afin d'ajouter à son texte la mélodie juste qui exprimerait les sentiments du chant. L'orgue de l'église ne fonctionnait pas à l'époque, et ils ont décidé donc de présenter le chant à l'église pour la messe de la veille de Noël, accompagné d'une musique de guitare qui appartenait à l'enseignant. Le cantique avec sa musique a eu un impact profond sur les paroissiens et continue de nous toucher encore aujourd'hui, je crois. Ni l'auteur ni le compositeur n'avaient l'idée que leur chant aille plus loin que leur petit village. Mais quelques jours après sa présentation, quand le réparateur de l'orgue est passé, il en a obtenu une copie. Et par son influence, Silent Night a fait le tour de toute la région tyrolienne. Certains groupes amateurs et professionnels ont commencé à le chanter dans leurs concerts. Et il est passé dans le répertoire des cantiques aux États-Unis lorsque, en 1839, une famille de chanteurs du Tyrol l'a utilisé dans sa tournée de concerts sur le continent américain. Il existe au moins 8 traductions du chant en anglais même, mais celle qui est de loin le plus répandue a été faite par John Young, un ministre à l'église épiscopale, et forme la base de notre traduction aujourd'hui. Dans le silence de la nuit, ce miracle de Dieu a connu son début terrestre. Ce cantique nous invite à réfléchir sur cette grâce rédemptrice, ce don emballé en un simple bébé, mais un bébé comme aucun autre.
En effet. Mac, je vais faire quelque chose d'un petit peu spécial aujourd'hui. Plutôt que de tenter de faire ressortir la théologie, qui est quand même assez élémentaire, hein, de ce cantique-là, j'ai pensé vous lire une portion du livre de James Tucker, « La vie de Jésus-Christ », enfin la traduction en français de ce livre-là de James Tucker. Et ça s'intitule « Le groupe autour de l'enfant ». C'est un peu long, j'espère que ce ne sera pas cependant fastidieux. Alors ça va comme suit. Si Jésus a fait son entrée dans la vie d'une manière aussi humble et modeste, si les habitants de Bethléem n'ont pas connu ce qui s'était accompli au milieu d'eux, si à Rome, l'empereur n'a pas su le rôle qu'avait joué son décret dans la naissance d'un roi qui devait étendre son pouvoir non seulement sur l'Empire romain, mais là même où les aigles romaines n'avaient jamais volé, si l'histoire de l'humanité a continué le lendemain sa marche vers les intérêts matériels, parfaitement inconsciente de cet événement, celui-ci n'avait cependant pas complètement échappé à l'attention. Dans des âmes sensibles et pieuses, une obscure et inconsciente émotion se fit jour et les amena autour du berceau de l'enfant. Regardez le groupe qui se rassemble autour de lui pour l'admirer. Il y a là en abrégé toute son histoire future. D'abord, les bergers. D'abord, des champs environnants viennent les bergers. Ce que n'avaient pas remarqué les rois et les grands de ce monde était un événement si passionnant pour les princes du ciel qu'ils firent éclater les limites de l'invisibilité dont ils s'entouraient pour exprimer leur joie et expliquer la signification de ce grand événement. Cherchant les cœurs les plus dignes d'un pareil message, ils les trouvèrent en de simples bergers qui vivaient une vie de contemplation et de prière dans ces champs chargés de souvenirs suggestifs, n'est-ce pas, où Jacob avait gardé ses troupeaux, où Boaz et Ruth s'étaient mariés et où David, le grand type de Christ dans l'Ancien Testament, avait passé sa jeunesse. L'ange les envoya vers le Sauveur. Ils se hâtèrent d'aller à sa recherche. Ils étaient les représentants du peuple de paysans, du peuple des campagnes, au cœur honnête et droit, qui devait former plus tard le noyau de ses disciples. Vinrent ensuite Siméon et Anne. Ils représentent ceux qui étudient les Écritures avec ferveur et intelligence spirituelle. Ceux qui, à cette époque, attendaient l'apparition du Messie et qui allaient lui fournir quelques-uns de ses fidèles disciples. Le huitième jour après sa naissance, l'enfant fut circoncis. Ayant ainsi accompli la loi, il entrait au sein de l'Alliance et s'inscrivait par son propre, inscrivait par son propre sang son nom sur le livre de la nation. Bientôt, après, quand les jours de la purification de Marie furent achevés, ses parents le conduisirent de Bethléem à Jérusalem pour le présenter au temple. C'était le Seigneur du temple, entrant dans le temple du Seigneur. Peu de visiteurs avaient moins de chances d'être remarqués par les prêtres, car Marie, au lieu d'offrir le sacrifice habituel, en pareille circonstance, ne pouvait présenter que deux tourterelles, l'offrande du pauvre. Il y avait cependant des yeux qui le contemplaient, des yeux qui n'étaient pas éblouis par l'éclat du monde et auxquels sa pauvreté n'arrivait pas à le dissimuler. Siméon, vieillard pieux, qui, en réponse à ses prières, avait reçu la secrète promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, rencontre les parents de l'enfant lorsque subitement, comme un éclair, jaillit en lui, pensée qu'enfin c'était lui. Le prenant dans ses bras, il rendit grâce à Dieu pour l'apparition de la lumière qui devait éclairer les gentils et glorifier son peuple Israël. Il parlait encore lorsqu'un autre témoin se joignit au groupe, Anne, une sainte veuve, qui habitait littéralement dans les parvis de l'Éternel et qui avait purifié les yeux de son esprit par la pratique de la prière et du jeûne, en sorte qu'il pouvait pénétrer d'un regard prophétique le voile du présent. Elle unit son témoignage à celui du vieillard, louant Dieu et proclamant ce grand secret aux autres personnes qui attendaient comme eux la rédemption d'Israël. Les bergers et ces Israélites pieux demeuraient près de l'endroit où cette force nouvelle était apparue dans le monde, mais à une distance bien plus grande, elle faisait frémir les âmes sensibles aux réalités spirituelles. Ce fut probablement après la présentation au temple et après que les parents eurent ramené leur enfant à Bethléem, où ils avaient sans doute l'intention de demeurer au lieu de retourner à Nazareth, qu'il reçut la visite des mages d'Orient. Membres des classes érudites, ils étaient dépositaires de la science, de la philosophie, des mystères religieux et de la pratique médicale des pays de l'autre côté de l'Euphrate. Les historiens rapportent que dans les régions d'où ils venaient, se manifestait alors une grande attente pour un grand roi qui devait apparaître en Juda. Nous savons aussi qu'à cette même époque, on pouvait voir dans les cieux une brillante étoile temporaire. Or, les mages qui étudiaient avec ferveur l'astrologie croyaient que tout phénomène peu ordinaire dans les cieux était le signe de quelque événement remarquable sur la terre. Il est aussi bien possible qu'en reliant l'apparition de cette étoile qu'ils ne peuvent manquer d'avoir examinée soigneusement à l'attente dont parlent les historiens anciens, ils aient été conduits vers l'ouest pour voir si celle-ci était réalisée. Si leurs recherches commencèrent par la curiosité scientifique et la spéculation, Dieu les conduisit jusqu'à la vérité parfaite. Leur visite était une prophétie, celle du monde païen qui accueillerait la doctrine du salut et apporterait ses richesses, ses talents, sa science et sa philosophie pour les déposer aux pieds de son Sauveur. Ils se réunirent tous autour de son berceau pour adorer le Saint-Enfant. Les bergers avec leur admiration de gens simples. Siméon et Anne avec une révérence que rendait plus vive la sagesse et la piété des siècles accumulés. Et les mages avec les dons somptueux de l'Orient et la connaissance du monde païen. Mais pendant que ces vrais adorateurs le contemplent, voici apparaître le visage sinistre d'un meurtrier qui regarde par-dessus leurs épaules. C'est le visage d'Hérode, qui occupait alors le trône du pays. Prince à l'âme cruelle, basse, ténébreuse, il s'était rendu coupable de tous les crimes. Il avait baigné son palais dans le sang, assassinant sa femme favorite, trois de ses fils et nombre de ses parents. Maintenant, il était vieux, torturé par la maladie, le remords, le sentiment de son impopularité et une terreur maladive de tout prétendant possible à ce trône qu'il avait usurpé. Les mages s'étaient naturellement tournés vers la capitale pour apprendre où devait naître celui dont ils avaient vu le signe en Orient. Leur déclaration toucha Hérode au point sensible. avec une hypocrisie diabolique, il cacha son angoisse. Ayant appris des prêtres que le Messie devait naître à Bethléem, il envoya les étrangers en prenant soin de leur demander de revenir lui dire quelle était la maison où se trouvait ce nouveau roi. Il espérait ainsi pouvoir le faire disparaître d'un seul coup. Mais il fut déjoué, car, avertis par Dieu, les mages ne revinrent pas vers lui, mais retournèrent chez eux par un autre chemin. Alors, sa furie éclata comme une tempête. Il envoya ses soldats à Bethléem tuer tout enfant au-dessous de 2 ans. Mais Joseph était parti avec l'enfant en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Alors il retourna habiter à Nazareth. Il s'était détourné en effet de Bethléem, qui se trouvait dans le royaume d'Archélaüs, digne fils de son père. Le visage d'Hérode le meurtrier, considérant l'enfant avec haine, était une sombre prophétie de la manière dont les puissances de ce monde devaient le persécuter et retrancher sa vie de la terre. Et voilà pour le groupe autour de l'enfant Mac.
C'est une image du passé. On voit les riches, on voit les pauvres agenouillés devant le bébé, et ça me fait penser à l'avenir. On voit tout le monde à genoux devant le Christ.
Amen, en effet.
Pour confesser que Christ, au fait, est roi et maître. Seigneur. Alors, au risque de bousculer le cœur de certains et de défier un peu la tradition, je vais vous offrir une version modernisée de ce chant, ce vieux cantique de Noël. Et c'est une version faite par les Winans, B.B. et C.C. Winans. Vous allez reconnaître l'original, même s'il nous est présenté avec un, est-ce que j'ose dire, un beat un peu bossa nova.
Bon!
Alors voici donc pour 2013, Silent Night.
Et avant de passer à l'audition de cette interprétation de B.B. et C.C., nous vous remercions d'avoir été ici avec nous. Et pour votre présence à cette émission, nous vous souhaitons une excellente journée, un week-end ultra béni. Non seulement béni, mais ultra béni. Et nous vous convions, bien sûr, pour la prochaine émission samedi prochain. Non pas sans vous rappeler qu'entre-temps, l'émission actuelle vous reviendra cet après-midi en rediffusion à 17h30. Donc à tous et à toutes, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits sans nombre. À bientôt.